Tony Comiti, caméraman. Après avoir été photographe et avoir couvert les plus grands conflits de l'Amérique du Sud, à réécouter d'ailleurs dans le premier épisode, Tony Comiti, en plus de ses appareils photo, embarque désormais une caméra. Il entre à TF1. Et l'aventure continue. D'abord, il se frotte à ce nouveau devenir où l'on ne travaille plus seul, mais en équipe, avant de couvrir les événements du Tchad et de réussir deux scoops en Iran et à la guerre Iran-Irak. C'est une autre vie qui s'élance, celle d'un homme de mémoire, une aventure humaine.
On m'appelle le samedi, un samedi soir. On me dit « Présentez-vous au planning caméra, lundi matin, on va vous habiller ». Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va m'habiller, il y a des uniformes ici, il y a quoi? Donc je me suis pointé le lundi matin rue Cognac-Jay, et là où était TF1, en fait c'était déjà encore l'ORTF, hein. TF1 était privatisé je crois un an ou deux après, mais ça s'appelait TF1 déjà, hein. Et à m'habiller, en fait ils m'ont m'habillé, ça veut dire le matériel, donc on m'a donné une caméra, les batteries, le pied... un Bellowell qui était une petite caméra mécanique à l'époque, en plus en sécurité, et puis voilà me voilà trop rendu au planning caméra, donc au milieu de 50 caméramans, il y avait 50 reporters caméramans, c'était quand même un gros média à l'époque, hein.
Du coup vous repartez avec la caméra à l'épaule sur d'autres théâtres qui sont pas forcément en Amérique du Sud?
Non, alors du coup je vais un peu partout, hein. Donc les guerres en Afrique, Belfast, un peu partout, Afghanistan, Iran, là où ça chauffe, parce que j'aime ça de toute manière, j'aime les situations de conflit, d'abord parce que ça fait aussi partie de notre métier de témoigner contre les exactions, contre tout ça, donc, et puis j'aime ces terrains d'aventure, où risqué, mais en même temps, on fait des rencontres immenses. Ils m'ont essayé sur le sport à TF1, à un moment. Donc, on m'a envoyé faire un match de foot Saint-Étienne contre Nice, je crois. J'ai loupé les trois buts, quoi, en film, quoi. Donc, j'ai été tricard sur le sport. Ils ont dû racheter des images à FR3, Clermont. Donc, ils m'ont dit, mais t'es nul, quoi, t'es pas bon. J'ai dit, non, mais je vous l'avais dit, moi, le foot, en plus, j'y connais rien, puis j'aime pas, puis voilà, faut pas mettre sur ces coups-là. Donc on vous catalogue, quoi. On vous dit, bon, ben, Comiti, c'est Hot News. Hot News, ça veut dire aussi les manifs dans Paris, ou ça veut dire tout ça, hein, c'est des... Voilà.
Quand on a la caméra, et qu'on est un ancien, quoi, qu'on est toujours photographe, on a une façon de regarder ou de s'approcher qui est différente entre un photographe et un caméraman.
C'est pareil, caméraman ou photographe, il faut être au plus près de l'événement. Donc la seule différence, c'est qu'il y a du son, il faut travailler en communion avec le preneur de son, c'est une vraie communion, d'où l'importance du travail d'équipe. Un photographe, il est plus indépendant, il peut partir un petit peu plus loin. Là, c'est une équipe que vous déplacez, donc c'est un peu plus contraignant. Peut-être, j'ai eu du mal au début de faire les claps. Il fallait faire les claps, hein, on était en film, de m'entendre avec une équipe. Mais par contre, l'avantage, c'est que j'avais le sens du cadre et le sens de mettre en séquence l'atmosphère autour de la scène principale, si vous voulez. N'importe où. C'est-à-dire qu'avant d'arriver sur un endroit, ben, je commençais à tourner au téléobjectif avec ma caméra. Des gens qui passent, des témoins qui sont là, même sur le fait divers, sur n'importe quoi. Donc de recréer une ambiance pour que le monteur puisse avoir des images pour raconter sur le commentaire du journaliste. Donc ça, j'étais assez apprécié pour ça à TF1 parce que je montais un décor autour des séquences, ce qui permettait de rallonger les séquences et puis de créer une atmosphère, si vous voulez, voilà. Donc c'est simple, hein, le décor, c'est, il y a un enterrement d'un voyou, par exemple, je me souviens, un enterrement d'un gitan du côté de Toulouse, où la presse était interdite, on s'était planqué dans le village, dans une chambre, il y avait un chat à la fenêtre, hop, je filmais le chat, il y avait des flics qui passaient, hop, je filmais les flics. Vous voyez, donc ce décor permettait au montage, mais presque de créer des magazines, presque voilà, de raconter une histoire, une atmosphère. Ça, j'ai su le faire tout de suite. Après, j'ai évidemment fait des erreurs énormes techniquement. Donc, quand vous rentrez à TF1 comme caméraman, il y a un endroit qui s'appelle le couloir de la mort. C'est les salles de montage. Si vous n'êtes pas copain avec les monteurs ou sympa avec les monteurs, ils vous détruisent. D'ailleurs, à l'époque, Roch Pescadère m'a dit « il faut que tu ailles au montage ». Ça, c'est très important pour apprendre. Et c'est ce que je dis à mes gars maintenant. Assister au montage, les gars. C'est là où vous allez voir, même au bout de 20 ans, 25 ans de métier, c'est là où vous allez voir vos erreurs. Donc voilà, donc j'allais dans les salles de montage, et puis, j'ai plutôt de bons rapports avec les gens. Il faut pas la ramener, quoi. Hein. C'est pas parce qu'on est caméraman et que l'autre, il est monteur et qu'il passe ses journées dans la salle de montage qu'il est inférieur ou supérieur à vous. Donc voilà, je me suis fait quelques copains monteurs qui m'ont dit, regarde, là, t'as fait une connerie, parce qu'il fallait faire le contre-champ ici, là, t'es trop large, là, t'es trop serré. Donc, vous voyez, ça, donc j'ai appris aussi comme ça. Et puis l'angoisse du labo, j'en ai fait des conneries. Hein, on ne devient pas de photographe à caméraman comme ça. C'est même si au bout de 17 ans, je faisais encore des conneries, au début, c'était chaud. Hein, donc il y a l'angoisse du labo, quand vous ramenez votre pellicule au labo, avec une petite bouteille de vin, toujours, hein, pour le laborantin. Je dis, écoute, fais-moi un petit test pour voir. Ouais, mais bon, t'es jamais sûr de ton diaph et tout. Donc, il me faisait un petit test. Il développait un mètre de pellicule pour voir si j'étais surex ou sous-ex. Mais ça, c'est pareil. Ils le faisaient pas n'importe qui. Ils le font parce que ben, vous êtes sympa avec eux. Que, voilà. Donc, mais ça n'a pas été simple hein, d'apprendre la caméra. Mais à TF1, ils ont été formidables. J'ai passé les plus belles années de ma vie à TF1. 17 ans de grands reportages. Et de grandes rencontres, des rencontres immenses, Bertolino, Honorin, tous ces grandes signatures, et puis les gens qu'on filme. C'est un métier de rencontre, uniquement un métier de rencontre. D'abord, c'est le Tchad, donc je crois que ça a été mon premier coup de guerre pour TF1. N'Djamena est à feu et à sang, il n'y a plus un blanc à part l'ambassade. Il y a des combats très violents entre Goukouni, Issénabré et Kamungé, trois puissances qui se déchirent dans les rues de N'Djamena, qui essayent de prendre le pouvoir. Donc je suis parti avec Debré, qui était un spécialiste de l'Afrique. Et donc nous voilà donc au milieu des combats au Tchad. Épouvantable, je me souviens de séquences à l'hôpital de N'Djamena où il y avait un médecin français qui pratiquait des amputations sans anesthésie et qui pleurait. Il pleurait en opérant, comme ça, il regardait ma caméra et il avait les larmes qui coulaient. Il y avait des morts partout, des blessés partout qui attendaient. Il y avait une série de blessés aux jambes à cause des mines, ce qu'ils appelaient les découilleurs à l'époque. Donc ça coupait les pieds, ça coupait les jambes. C'était atroce, hein, cette guerre au Tchad. Donc je suis rentré à Paris avec l'équipe. On a monté un magazine sur la guerre du Tchad. Bon, voilà, ça s'est bien passé. Et je me trouvais au planning caméra. Et il y a un type qui rentre comme ça avec une grosse voix et qui a gueulé comme ça, qui a dit « Qu'est-ce qui a fait le Tchad ?» Donc je dis « Putain, j'ai dû faire une connerie, je sais pas quoi. » C'était Jean Bertolino. Et il me dit « C'était vachement bien. Venez me voir. » Donc je suis parti dans le couloir, on est allé aux toilettes. On a pissé ensemble. Il m'a juste dit « Vous voulez partir avec moi en Iran ?» Voilà. Et c'était le début de la grande aventure avec Jean Bertolino. Et donc on est parti en Iran. Et là, j'ai découvert la République islamique iranienne. Nous étions petit Satan. Nous étions passés de ami à petit Satan, avant de devenir grand Satan. Hein. Donc voilà, je suis arrivé avec Bertolino à Téhéran. Et Berto, il avait une manière de travailler Parce que Berthaud aussi, c'est un ancien, Bertolino, c'est un ancien de la presse écrite. Et photographe aussi. Il a travaillé pour La Croix et tout ça avant de faire de la télévision. Et il ne supportait pas les autres journalistes dans les hôtels. Il ne voulait absolument pas se trouver là où se trouvait toute la meute. Donc on descendait dans des petits hôtels, on n'allait jamais essayer de les voir. On travaillait un peu en indépendance, ce qui me convenait moi parfaitement, puisque j'avais aussi cette formation. Et Roménie, il y a une prise d'otage à l'ambassade des États-Unis à l'époque. Donc tout le monde est dessus, sur cette prise d'otage. Et Roménie n'a pas parlé depuis un an. Ça fait un an qu'il donne aucune interview, qu'il ne fait aucune déclaration. Donc Berthaud me dit le scoop, hein, c'est quand même Roménie. Donc on fait des demandes, mais qui n'aboutissent pas. Et Banisadr, qui était le premier ministre à l'époque de Roménie, conviait la presse tous les matins au petit déjeuner. Un coup c'était les Allemands, un coup les Italiens, et puis vient notre tour. Donc on va chez Banisadr, et puis Banisadr se lie d'amitié avec Jean Bertolino, qui était quelqu'un de très cultivé, un grand journaliste avec beaucoup de connaissances de l'Orient, du Moyen-Orient, voilà. Il se lie d'amitié et Banisadr lui dit, ben venez donc le matin prendre le petit déjeuner, c'est intéressant qu'on puisse échanger. Donc tous les matins, nous partions chez Banisadr. Et puis je crois qu'au bout de 4-5 jours, on fait une interview de Banisadr. Et on sort du bureau et Banisadr sort et dit, Mister Bertolino, oui, écoutez, vous pouvez venir me voir une minute. Donc on rentre à nouveau dans le bureau de Banisadr. Il dit, l'imam voudrait faire une déclaration à une télé étrangère. Et Jean lui dit, mais quel imam? Il dit, l'imam Roménie. Et Jean me regarde et tout de suite me dit, t'as combien de péloches? Et est-ce que t'as assez de batterie? Je regarde mon sac, j'avais 5-6 boîtes, je dis, pour moi c'est bon. Il regarde le preneur de son, il dit, pour moi c'est bon aussi. Et nous voilà partis, avec la voiture de Banisadr, dans la banlieue de Téhéran, où Roménie résidait, dans une petite maison toute simple. Et dans cette ruelle qui monte vers la maison de Roménie, il y a embouteillage, une foule humaine incroyable de gens qui veulent avoir audience avec Roménie. Donc on a arrêté notre voiture et Banisadr nous dit faut qu'on continue à pied. Donc on marche pendant 20 minutes au milieu de la foule qui ne voulait pas nous laisser passer. Et on arrive, tant bien que mal, au portail de la petite maison, petit pavillon, qui ressemble à un pavillon de banlieue au côté de Paris, là, avec un grand portail. Et Banisadr dit, c'est moi, je suis avec l'équipe des Français. Et on me dit de passer ma caméra au-dessus du portail. Je dis, moi, je passe pas ma caméra comme ça. Et Banisadr, mais si, donc... Je passe ma caméra, je passe la batterie, le pied, et puis on nous demande d'attendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec la caméra? Je n'en sais rien. À mon avis, ils ont eu peur d'une caméra piégée, je ne sais pas. En tout cas, ils ont dû ouvrir ma caméra. Bon. Et puis au bout d'une demi-heure, on nous fait rentrer, et puis on rentre à l'intérieur de la maison. On nous demande d'attendre, et puis on nous offre le thé. Et là, tout d'un coup, on nous dit, ben venez, l'imam vous attend. On rentre dans une petite pièce obscure. Il y avait des tapis magnifiques. Et au bout des tapis, l'imam Roménie, qui nous dit à peine bonjour. Il avait un grand sourcil comme ça, arc-bouté comme ça. Puis il nous fixait d'un air un peu méprisant. Donc Jean Bertolino va pour lui serrer la main en lui faisant une révérence. Je dis, mais putain, c'est pas le pape, quoi, merde. Donc je suis allé le voir, il nous tend à peine la main, et puis on nous dit, vous pouvez commencer l'interview. Donc je m'installe, et je dis, lumière, et là on me fait no light. Je dis, mais je fais comment? C'était sombre, sombre. Et Bertolino me dit, 1200, c'est 1200 ASA. La pellicule est à 60 ASA. Donc heureusement, j'ai une boîte à 400 ASA, donc je change ma boîte, c'est-à-dire qu'il va falloir pousser trois fois au labo. Là, je suis super inquiet. J'arrive avec ma cellule, je me prends 15 fois le diaph, et Jean me fait, t'as pas intérêt à te planter. Bon, je dis, mais non, ça va, confiance quand même, confiance. Et l'œil dans le viseur, on démarre l'interview de l'imam Roménie, Et au bout de 30 secondes, je fais couper. Les gens me regardent, tout le monde me regarde, l'imam Romani me regarde, et je fais un geste en me faisant un cercle autour de ma tête, en disant chapeau, il lui manque son chapeau. En fait, on avait démarré l'imam, l'interview de l'imam Romani sans son éternel chapeau qu'il avait au-dessus de la tête, là, de religieux. Tout le monde a oublié, tout le monde est stressé, son entourage est mort de trouille, Banissa ne s'en fout, et je vois que dans le viseur, quelque chose ne colle pas, c'est qu'il lui manque son chapeau. Donc il comprend, il me regarde et il me fait un sourire quand même. Donc on lui amène son turban là, au-dessus de la tête, et Berthaud, il me dit mais on s'en fout du chapeau. J'ai dit, écoute, voilà, démarre l'interview, mais on s'en fout du chapeau. Et on a démarré une heure d'interview, on a fait une heure d'interview où, bon voilà, Romani critique les Américains, les Français, le conflit avec l'Irak, et tout ça est traduit simultanément par Banissa. Alors en plus de ça, nous avions une interview traduite en français par M. Banissa, ce qui était quand même extraordinaire. Voilà, et Jean Bertolino, qui ne perd pas le Nord, à la fin de l'interview, lui dit, écoutez, l'Iran est en guerre, il n'y a aucune image des valeureux soldats iraniens qui risquent leur vie sur le front irakien, est-ce qu'on peut y aller? Banissa traduit à Romani, qui regarde Bertolino et qui fait si, comme ça, il dit oui. C'est-à-dire que, non seulement nous venions de faire un scoop énorme avec l'interview de Romani, mais en plus de ça, nous allions partir au front avec l'armée iranienne. Et ça, ça a été incroyable. Jean me dit, tu te rends compte, on va partir sur le front, c'est formidable. Je dis, ouais Jean, c'est formidable, mais tu te rends compte ce qu'on a en boîte. Il dit, on s'en fout, on est les seuls à l'avoir, personne ne l'aura, on reviendra quand on reviendra, le scoop, il est le scoop, et le scoop attendra, et la télé attendra. Donc on nous dit, bah écoutez, vous partez demain matin sur le front, mais avant il faut passer à la censure, parce que vous allez avoir un officier de presse qui va vous accompagner. Et dans demain matin, on vient nous chercher, et on nous amène, il y avait une salle de permanence, pas très loin de notre hôtel, et là il y avait une dizaine d'officiers, et quand ils ont compris qu'on allait partir au front, et qu'un d'entre eux allait être désigné, ils sont tous descendus sous le bureau. Et le chargé de com de Romani, à un moment, d'un doigt, il désigne le petit aux cheveux gris qui se trouvait au fond de la salle, qui fait « pas moi, pas moi ». Et nous voilà partis avec ce monsieur qui n'avait pas du tout envie de partir avec nous au front, parce que c'était chaud, hein, la guerre Iran-Irak. Et voilà, ils nous ont amenés en avion militaire avec cet officier de presse qui tremblait. Ils nous ont amenés à Awaz, à la frontière irakienne. Et on a fait un truc formidable, on est parti avec des hélicoptères, avec les hélicoptères Cobra, qui bombardaient l'Irak. Donc nous étions dans un hélico rescue, avec médecins, au-dessus des Cobras, et pendant une semaine, on a fait les opérations avec les pilotes de Cobra, ça fait un scoop mondial. C'était les premières images de l'Iran en guerre.
Ça en fait des images dans la tête.
Ça me revient maintenant, grâce à toi, mais ça me revient maintenant, tout ça, c'est curieux, la mémoire.
Ouais.
Et quand on est rentré à Téhéran, ça a été chaud, hein. D'ailleurs, l'officier de presse a passé son temps à se mettre sous des caves, sous des tunnels, dès qu'il entendait le moindre coup de feu. C'est extraordinaire parce que on a filmé des choses insensées, quoi. Des enterrements de soldats, des mecs qui étaient dans les marais, qui tenaient des pontons, on croisait des enfants avec des bandeaux noirs, avec des fusils en bois, et quand ils voyaient passer la caméra, Allah Akbar, ça criait, et les autres bombardaient au gaz moutarde en face. Donc on avait une tenue, l'armée iranienne nous avait donné une tenue anti-gaz, donc c'est une espèce de combinaison comme ça, on la mettait pas, il faisait 50 degrés là-dessous, donc c'était chaud quand même, hein, très, très chaud. Et lorsqu'on est rentré à Téhéran, On était très contents parce qu'on rentre un lundi. Je crois que l'avion d'Air France qui nous ramenait à Paris, c'était le mardi. Donc le lundi soir, on était très contents. On rentre enfin à la maison. Sauf que la censure est arrivée. Ils nous ont dit, il n'est pas question que vous partiez demain. On doit voir les images. Il dit, comment ça, vous voulez voir les images? On va développer ici. Vous allez développer ici. Mais j'ai aucune confiance. Ah mais vous partez pas avec la pellicule comme ça, monsieur. Donc on a annulé notre vol Air France. On est arrivé à la télé iranienne, au labo de la télé iranienne. Il y avait le chef du labo qui était là. Je suis allé vers lui. Je lui ai dit, vous savez ce qu'il y a là-dedans? Il y a l'interview de l'imam Khomeini. Si jamais vous bousillez ma pellicule, je vous dénonce. Il a changé sa blouse. Ils ont changé les bains. Et ils ont développé. Très bon développement. Hein. Mais je peux vous dire que ça a duré 2 heures pendant lesquelles c'est comme un papa qui attend la naissance de son bébé. On faisait les 100 pas, comme ça devant le labo. Ils nous ont interdit de rentrer à l'intérieur. Et au bout de 2 heures, il y a ce fameux chef laborantin au bout de planche qui sort avec un bout de pellicule. Il fait « All is good, all is good !» Donc ils ont développé, ils ont coupé une image qui était un vieux soldat qui avait un fusil en bois sur un radeau. Ils l'ont coupé cette image parce qu'ils ne voulaient pas montrer que l'armée iranienne avait des fusils en bois. Oui, le reste a été validé par la censure. Voilà, puis on est rentré à Paris et ça fait beaucoup de bruit ce reportage. Oui.
Ce son a été enregistré, monté, mixé, réalisé par Jean-Louis Vinet. C'est une production de www.aloeil.info. Vous pouvez retrouver tous nos sons, tous les podcasts sur www.a-l-oeil.info, info au singulier. Là, vous aurez tous nos podcasts. Bonne écoute et à bientôt.